Customers are rushing to your store. Do you have a point of sale system you can trust, or is it a real POS? You need Shopify for retail. Shopify POS is your command center for your retail store. From accepting payments to managing inventory, Shopify has everything you need to sell in person. With Shopify, you get a powerhouse selling partner that effortlessly unites your in-person and online sales into the one source of truth. Track every sale across your business in one place and know exactly what's in stock. Connect with customers in line and online. Shopify helps you drive store traffic with plug-and-play tools built for marketing campaigns from TikTok to Instagram and beyond. Get hardware that fits your business, take payments by smartphone, transform your tablet into a point-of-sale system, or use Shopify's POS Go mobile device for a battle-tested solution. Plus, Shopify's award-winning help is there to support your success every step of the way. Do retail right with Shopify. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/theathletic, all lowercase. Go to shopify.com/theathletic to take your retail business to the next level today. Shopify.com/theathletic.
Le réseau des podcasts d'Athletic est soutenu par la brosse à dents électrique Quip. La Tesla des brosses à dents. Les habitudes de la plupart des gens en matière de soins dentaires pourraient être meilleures. On se brosse souvent les dents pendant moins de 2 minutes et on utilise de vieilles brosses à dents usées. Quip rend facile et pratique le fait d'avoir une bouche fraîche et en santé. Leur brosse à dents électrique vibre toutes les 30 secondes pour que vous vous nettoyez la bouche de façon uniforme et ils vous envoient des têtes de brosses à dents rechargeables tous les 3 mois, telles que les dentistes le recommandent. Obtenez votre première recharge gratuitement à getquip.com/listen. GETQUIP.com, getquip.com/listen, LISTEN, pour votre première recharge gratuite. Bonjour tout le monde, bonne Saint-Valentin tout le monde, ici Marc-Antoine Godin du Support Athlétique, votre podcast portant sur le Canadien de Montréal et comme toujours, je suis accompagné de mon fidèle collègue Arpin Basu. Bonjour Arpin!
Salut Marc-Antoine, comment va Pittsburgh?
C'est humide à Pittsburgh.
C'est humide à Pittsburgh, mais il neige encore une fois. Alors,
ah bon, écoute, voilà. Je suis pas pressé de rentrer, mais c'est correct, de toute façon... Les Canadiens avaient congé jeudi, prenant un répit avant son match de vendredi. Probablement que ça a donné l'occasion à Philippe Dano de prendre un premier vrai repas solide. Quoi qu'il avait mangé du poulet avant le match de mercredi, mais ayant 4 dents très très fragiles dans la bouche, il a déjeuné à la paille mercredi matin. Fait que ça, il était assez magané. Et peut-être que Brendan Gallagher lui a dû soigner sa gorge après le beau double échec de Zdeno Chara, qui a valu à Chara 5 000 $ d'amende d'ailleurs.
Oui, 5 000 $ d'amende, mais 2 minutes de punition avec 2 minutes de punition de Brendan Gallagher. Mais comme tu as très bien écrit dans ton texte hier soir, même un extrait 2 à Chara aurait probablement pas fait grande différence dans l'issue du match, étant donné que le jeu de puissance canadien est redevenu le jeu de puissance qu'on a connu l'année passée.
Oui, effectivement, ça va mal à ce niveau-là. Mais écoute, je pense que c'est dans le ton. J'ai l'impression que, tu sais, depuis très longtemps, le Canadien a frappé l'iceberg. OK? Et là, j'ai l'impression que c'est comme si on s'apprête à arriver au moment où le Titanic va se retrouver en position verticale avant de plonger comme il faut. T'sais, alors, le naufrage est amorcé depuis longtemps, mais là, j'ai l'impression que la grande plonge approche. Et surtout, je pense que le fait que le Canadien ait perdu Shea Weber pour 1 mois, mais j'ai comme l'impression, moi, honnêtement, que ça risque d'être pour le reste de la saison. Je serais surpris qu'on le revoie.
Ben, la date qu'ils ont donné, de 4 à 6 semaines, nous rend quoi? Nous rend comme en fin mars? Plus ou moins. Si c'est 6 semaines, alors il va rester 2 semaines Même pas. Une semaine et demie de la saison qui reste.
Ouais.
Alors, le timing est très bien orienté pour qu'il manque le reste de la saison, parce qu'on s'entend rendu 25-26 mars. Les chances que les matchs canadiens vont dire vont changer grand chose sont très minimes. Et en tout cas, je pense que c'est notre discussion d'aujourd'hui, c'est un peu la gestion de cette blessure-là, les conséquences de cette blessure-là, comment ça va toucher aux stratégies de Marc Bergevin d'ici la date limite des transactions, et aussi juste le concept de relations publiques qui a été lié à ce dossier-là, et comment encore une fois le Canadien se retrouve en plein milieu d'un dossier qui suggère que le niveau de transparence est peut-être pas aussi élevé qu'ils nous ont laissé croire il y a 2 ans.
Mm-hmm. Ben écoute, je sais que d'un côté il y a des gens qui vont dire ben le Canadien s'il choisit de contrôler l'information a bien le droit de contrôler l'information à la vitesse qu'il le veut, puis à donner ses mises à jour au rythme que bon lui semble. Mais j'ai l'impression qu'en termes de gestion de communication, ils ont, à chaque fois que tu décides de ne rien dire, ça ouvre la porte à ce que d'autres disent des choses à ta place, d'autres qui disent des choses qui ne plairont peut-être pas à l'équipe ou qui vont pas dans le sens du message que l'équipe souhaiterait envoyer. Là, dans le cas de la blessure de Shea Weber, on a eu plusieurs niveaux, si tu veux, de nouvelles et de mises à jour provenant de différents informateurs de la Ligue nationale, certains qui parlaient simplement de, tu sais, je pense à Bob McKenzie qui parlait du fait que ça regardait pas bien du tout dans le cas de Weber pour qu'il rejoue prochainement. Et puis après ça, ben écoute, c'est sûr que Nick Kiprios en a rajouté une bonne couche en allant dire que la blessure était liée à sa blessure au pied, celle qu'il y a eu une intervention chirurgicale, en mars 2018, et il laissait suggérer aussi que peut-être à plus long terme, sa carrière pourrait être compromise, que son avenir était remis en question. C'est assez frappant. Évidemment, le diagnostic qui a été finalement déterminé par le Canadien est plus rassurant que ça. Mais qu'est-ce que t'en fais, toi, de ce commentaire-là, à l'effet que sa carrière pourrait être compromise? Puis avant de te laisser répondre, je me souviens que j'ai entendu des gens dire au moment de la blessure de Noah Jolson que c'était une blessure qui pouvait peut-être compromettre sa carrière. Il est revenu au jeu un petit peu par la suite, puis finalement on réalise que la personne qui l'avait dit, je pense que c'était Ron Fournier à la radio, qui avait dit que sa blessure pouvait peut-être compromettre sa carrière. Mais aujourd'hui, on réalise que c'est le cas. Alors, ouais, je sais pas ce qu'il y en est dans le cas de Weber, là. Ce que tu en penses par rapport à ça?
Ben, moi non. Ben, écoute, le simple fait qu'il est allé voir le médecin qui a fait la chirurgie sur son pied il y a 2 ans, son nom c'est Dr. Robert Anderson, c'est le plus, disons, le plus haut expert en Amérique du Nord en matière des opérations, des chirurgies sur les pieds et les chevilles. Je pense une bonne partie de la ligue du NFL ont déjà allé le voir. C'est un gars avec une énorme réputation, et ouais, ça a pris son expertise pour proprement diagnostiquer et soigner la blessure au pied de Shea Weber, qui était honnêtement mal gérée par le Canadien. Ils ont pas identifié c'était quoi le problème. Puis c'est un peu pour ça que je pense que cette fois-ci, étant donné que la blessure, tu sais, l'entorse à la cheville de Weber était dans la même région, il voulait pas prendre de chance, il voulait s'assurer que ça soit bien diagnostiqué et bien traité aussitôt que possible. C'est pour ça qu'il est allé voir le Dr. Anderson, ce qui est tout à fait normal. On parle de la carrière d'un joueur. Quand il y a une crainte quelconque, c'est mieux de prendre tous les moyens pour que cette crainte-là n'existe plus. Mais moi, ce qui me revient, tu sais, le Canadien sort, c'est une entorse à cheville, 4 à 6 semaines, ok? Alors, ce qui veut dire, effectivement, ce que Bob McKenzie a écrit, il a raison, s'il n'y a pas une bonne chance que Shea Weber rejoue cette saison. Et en plus, ça, ils ont juste senti confortable sortir ça après que Dr. Anderson a vu son pied. Ouais. Ce qui laisse croire que, effectivement, à chaque à chaque fois que quelque chose arrive à ce pied-là, ce qui risque d'arriver, tu sais, il bloque un tir, peu importe, n'importe quoi, s'il y a quelque chose dans cette cheville-là, c'est fort probable que
Chez Wallet va aller revoir. Ouais. Il va aller revoir Dr. Anderson. C'est tellement fréquent d'avoir des rondelles sur le pied, tu sais, au moment de bloquer des lancers. C'est arrivé à Jeff Petrie face au Bruins de Boston, à Weber lui-même au New Jersey. Les gens croyaient que c'était blessé dans ce cadre-là, mais c'est ça. Un pied, c'est exposé très souvent à une forme de meurtrissure ou une autre. Là.
Oui, absolument. Puis non seulement ça, mais quand on parle de la structure d'un pied. Ça prend beaucoup de poids, tu sais, chez Weber, il est pas léger, là, mais quand n'importe quel joueur de hockey, peu importe si c'est Paul Byron ou chez Weber, met beaucoup de pression sur les pieds, pendant toute la saison, tous les entraînements, à chaque fois qu'il fait quoi que ce soit, il y a une pression sur les pieds. Puis, tu sais, ça me fait rappeler un peu le cas de Peter Forsberg, qui a aussi eu des problèmes avec un pied, qui ne sont jamais vraiment réglés. Il avait toujours à gérer ça pendant le reste de sa carrière. Et finalement, c'était devenu quelque chose qui était juste trop douloureux pour lui de continuer. Alors, peut-être c'est pour ça que Nick Kyprios a entendu dire que effectivement son avenir serait compromis. C'est parce que dans le fond, si cette blessure-là, c'est quelque chose qu'il va falloir constamment gérer pendant le reste de sa carrière, c'est possible que ce que Kyprios est sorti n'est pas faux non plus. C'est juste que dans ce cas précis-là, c'est une entorse à la cheville. Mais la prochaine fois, qui sait, si jamais s'il y a un risque de complication qui soit lié à son pied et la raison, tu sais, parce que je peux pas croire que le Canadien avait identifié que c'était une entorse aux chevilles, mais puis il avait besoin d'une deuxième opinion là-dessus, là. Une entorse aux chevilles, c'est quand même dans le domaine de médecine sportive, c'est la base. C'est la blessure à diagnostiquer.
Mais est-ce que il pouvait y avoir une vérification pour s'assurer qu'il y avait fracture ou non, s'il y avait besoin d'une forme d'opération ou d'une autre? Peut-être que c'est ça.
Je pense que c'est une reconnaissance que la dernière fois ils l'ont pas catché. Et puis cette fois ils voulaient juste s'assurer que tout soit catché puis que tout soit vérifié, ce qui est parfaitement normal, c'est correct, c'est une spécialisation qui est pas très commune. La chirurgie que Dr. Anderson a fait sur Weber est très rare. Il en avait fait comme 2-3 dans sa carrière. Alors, puis comme j'ai déjà mentionné, sa carrière est quand même assez impressionnante. Il a fait beaucoup, beaucoup de chirurgie. Mais cette chirurgie-là, spécifiquement, il l'a fait, je pense, Weber avait dit qu'il l'avait fait 3 fois. Juste après, en mars 2018. Alors, tu sais, mais c'est juste, tu sais, quand j'ai entendu même Claude, tu sais, comme John Liu de TSN, ça c'était quand? C'était mardi à l'entraînement. Il avait demandé à Claude si c'était lié à un des deux chirurgies qu'il a subi en 2018. Avant même qu'il termine la question, Claude était comme écoute, je peux pas commenter là-dessus. Ce qui est normal parce qu'il y a certaines informations qu'il a le droit de dire, il y a d'autres qu'il n'a pas le droit de dire, puis il voulait pas mentir, alors il a juste dit je commente pas là-dessus. Là, c'était l'indice numéro un que effectivement c'est quelque chose qui est lié à un des deux opérations. Alors, on se rappelle que non seulement il y a une chirurgie sur son pied, mais il est allé pour une chirurgie assez routine, une arthroscopie sur son genou, qui est devenue quelque chose de beaucoup plus compliqué. Il s'est réveillé de cette chirurgie-là, puis il avait tout son genou a été rebâti, il avait une déchirure au ACL, puis il avait 6 mois de convalescence à faire, quand il pensait que ça aurait été 2-3 semaines quand il était mis sous l'anesthésie. Alors, si Shea Weber a une certaine manque de confiance envers le personnel médical du Canadien, je ne blâmerais pas trop après l'expérience qu'il a eue. Mais le fait que, tu sais, ça doit être un peu une crainte qui est là dans sa tête que peut-être le pied n'est pas tout à fait réglé. Si jamais, si une entorse sur la cheville laisse croire qu'il y a un risque de reblesser ce qui était blessé son quand pied, il était sur son pied, dans le fond, ben, le haut de son pied, c'est loin d'être idéal pour une athlète à haute performance comme ça.
Bon, fait que, écoute, donc c'est peut-être, on verra. Je pense que c'est quelque chose, c'est un élément nouveau qui est un petit peu inattendu dans la mesure où, Weber a raté 1 an d'activité, mais là, je pense que on s'attendait à ce que tout ça se soit derrière lui. Si cette nouvelle blessure-là évoque le souvenir de cette ancienne blessure-là et que on s'enligne vers quelque chose qui peut potentiellement être dégénératif, ben là, ça peut peut-être changer le cours de la carrière de Weber et la façon aussi dont le Canadien va gérer son cas, parce que là, écoute, c'est le défenseur le plus utilisé de l'équipe. C'est encore le défenseur vers qui Claude Julien se tourne le plus. Mais est-ce qu'il va falloir commencer à trouver des façons, garder ça en tête, puis dire, ben, à l'avenir, est-ce qu'il y a des moyens qu'on puisse alléger son fardeau? Un petit peu de la même manière qu'on parle de Carey Price en disant, ben, coudonc, trouver un gardien de but adjoint qui serait capable de garder les buts pour 25-30 matchs, ça permettrait de réduire la tâche de Price. Est-ce que, dans le fond, dans le cas de Shea Weber, améliorer la brigade défensive, aller chercher d'autres défenseurs solides, ce serait pas aussi en même temps une façon de le préserver un petit peu pour essayer de le garder plus longtemps aussi? Là.
Ben oui, ben en théorie, oui, mais tu sais, ça va prendre des maudits bons défenseurs là pour le faire, parce que tu sais, on s'entend que tu sais, même si Carey Price apprendrait une réserviste qui est comme un des meilleurs réservistes de la ligue pour que Claude Julien soit convaincu que ce soir on va donner un repos à Carey Price, je vais aller avec l'autre, même si l'autre est vraiment beaucoup inférieur que mon gardien partant. C'est le choix que tous les entraîneurs doivent faire, mais dans le cas de Price, je pense que c'est un peu particulier comme situation, juste à cause du fait que c'est le meilleur joueur de l'équipe, c'est le joueur de concession du Canadien, et j'ai jamais cru que le Canadien allait vraiment le faire, parce que rendu au moment de prendre la décision, il y a toujours une façon de trouver une excuse pourquoi Price devrait jouer ce soir et pas l'autre. Dans le cas de Weber, même affaire. Si tu amènes 2-3 défenseurs qui sont meilleurs que le gang qu'ils ont en ce moment, et on s'entend que le défensif c'est un peu le maillon faible de l'équipe là en ce moment, ouais. Ça va être difficile de convaincre Claude Julien ou n'importe quel entraîneur dans le fond, que même si Claude Julien est plus là, de convaincre l'autre que oui, on va alléger les minutes de Shea Weber pour préserver son pied quand t'es en plein milieu d'un match que tu essaies de gagner. Puis Shea Weber lui-même voudrait pas ça. J'ai parlé avec lui à ce sujet-là précis quand j'ai visité avec lui à Kelowna l'été passé. Puis il était comme juste... Tu sais, il avait été demandé la même question plusieurs fois. Tu sais, est-ce que tu devrais jouer moins? Est-ce que tu devrais jouer moins? Et il a toujours donné des réponses très courtes. Il voulait pas en parler. Puis là, j'étais assis seul avec lui en plein été. Il était relax. Puis j'étais comme, écoute, là, tu ne veux jamais répondre à ces questions-là, mais... C'est un fait que, éventuellement, il va falloir que tu joues un peu moins. T'as pas 25 ans maintenant, là, t'as 34 ans, tu vas voir, tu arrives à la mi-trentaine, c'est la plupart des défenseurs ralentis à ce moment-là. Si tu veux préserver ta carrière, si tu veux continuer jusqu'à la fin de ton contrat, c'est sûr qu'il va falloir que tu joues moins de minutes, mais il a pas accepté ça. Il dit, écoute, moi, à mon avis, je pense que je suis capable de jouer les minutes que j'ai toujours jouées, mais je comprends aussi ce point de vue-là. Je comprends ça. Alors, si les entraîneurs veulent le faire, je ne vais pas me plaindre. Mais si tu me demandes à moi, qu'est-ce que moi je préfère? Moi, je préfère que mon utilisation reste la même. Alors, c'est sa façon qu'il aborde cette situation-là. Ouais. Alors, rendu à un moment, tu sais, en plein milieu de la saison, disons le match contre Arizona l'autre soir, là. Les Canadiens vont jouer 4 matchs cette semaine. C'est le premier des 4 matchs. C'est probablement le plus, t'sais, tout le monde l'a identifié comme le match le Canadien absolument fallait qu'il gagne parce que les trois autres vont être très difficiles. Alors, pendant ce match-là, disons que Claude Julien décide et que ce soir, on va aller un peu mollo avec Shea Weber. Je sais qu'il n'a pas joué, là, mais disons qu'il jouait. On va aller un peu plus doux avec Shea Weber. On va lui donner 16-17 oui. minutes, avoir une soirée un peu plus facile pour qu'il soit frais et dispo pour les trois matchs plus corsés qu'on aura plus tard en saison. Si Claude Julien va voir Shea Weber puis dire ça, c'est sûr que Shea Weber va pas être content, là. Le gars, il va exprimer le fait que non, j'ai pas besoin de ça. On a besoin de gagner ce match. C'est très important. Vous avez besoin de moi. Et vous devriez me jouer autant que vous vouliez. Alors, c'est très bon en théorie de dire que, OK, Price et Weber, on doit les reposer. On doit les sauver pour plus tard. Mais en réalité, c'est pas la réalité du Canadien en ce moment. Et ça ne le serait pas non plus s'il va y chercher un ou deux autres défenseurs.
Ouais. Mais c'est pas non plus une équipe assez forte pour se permettre ce luxe-là, tu sais.
Ben, c'est ça mon point, puis ça prendrait...
C'est une équipe qui, à tous les jours, va se battre, ouais.
Mais c'est quel défenseur qui pourrait aller chercher qui rendrait ça plus facile de garder chez Weber au banc? Tu sais, c'est sont rares, ces défenseurs-là. Il existe peut-être une douzaine dans la ligue au total, où t'es comme, OK, on a lui, alors on va jouer lui et Petrie plus souvent, puis Weber, il va jouer comme 17-18 minutes, là, puis on va garder ça relax pour lui. Il n'y a pas grand monde là qui peut changer l'idée d'un coach comme ça, en plein milieu d'un match qui est serré, puis que t'as besoin de gagner. J'ai de la misère à trouver des candidats que le Canadien pourrait aller chercher qui changerait l'idée des entraîneurs. Là.
Justement, est-ce que dans ces circonstances-là, sachant que peut-être que la santé de Weber pourrait poser problème à l'avenir, est-ce que ça change, à ton avis, la façon dont le dossier de Jeff Petrie va être abordé, justement? Parce que t'as besoin, c'est une équipe qui a besoin, qui est pas en surplus de défenseurs, tu sais, de premier niveau. Le Canadien, ses espoirs en défense sont surtout du côté gauche. Beaucoup moins, il y a beaucoup plus de gars intéressants qu'à droite. Est-ce que Petrie, dans le fond, devient pas d'autant plus important pour le Canadien si Weber représente un point d'interrogation à l'avenir au point de vue de la santé? Je te pose la question, puis moi-même, en même temps, j'y réponds, mais sauf que j'ai l'impression que ça solidifie d'autant plus son importance au sein de l'équipe, fait en sorte que si les Canadiens veulent l'échanger ou hésitent à lui offrir un nouveau contrat, ils sont mieux d'y penser deux fois parce que son importance est évidente.
Ben, je pense que le Canadien pensait ça déjà, même avant que Weber se blesse. Et nous, on avait écrit là-dessus. Tu sais, on a pu. Je pense que c'était ça l'idée du Canadien concernant Jeff Petrie déjà. Parce que c'est sûr que c'est renforcé par la blessure de Weber, parce que si Weber se blesse puis Petrie est pas là, il y a rien à faire. Tu sais, il y a personne pour prendre ces minutes là. Alors,
non.
Le Canadien, il savait ça déjà. Tu sais, étant donné qu'ils ont vécu la situation avec Weber l'année passée, quand il a pas commencé la saison, Petrie a très bien joué dans son absence. Et étant donné que, tu sais, Cale Fleury, d'ici un ou deux ans, serait pas prêt pour être un défenseur de première paire de la Ligue nationale, là. Josh Brook non plus, Victor Mettin, c'est certain, non, tu sais, c'est comme, il y en a pas, même un Romanov qui peut évoluer à droite, il le fait de temps en temps en Russie, lui non plus, on sait, lui, ça pourrait prendre 6 ans avant qu'il soit prêt pour un rôle de première paire. Mathias Norlander non plus. Il n'y a personne dans le système qui laisse croire que, non seulement l'année prochaine, mais même l'année d'après, ou même l'année d'après ça, qui serait prêt à jouer un rôle comme celui que Shea Weber ou Jeff Petrie joue. Alors, les Canadiens, ils savaient déjà ça. T'sais, c'est comme s'il faut juste regarder l'organigramme de l'équipe, là, puis juste voir les espoirs qui s'en viennent. Puis il n'y a personne dans ce liste-là. Écoute, il y a des défenseurs prometteurs dans ce liste-là, mais il n'y a personne qui laisse croire que pendant les 3 prochaines années, ou disons qu'il offre une contrat de 3 ans à Jeff Petrie, pendant ces 3 ans-là, c'est fort probable que Jeff Petrie ne serait pas en train de bloquer chemin à un espoir qui devrait jouer à sa place. Là.
Non, effectivement. Ben écoute, ça va être... c'est un beau casse-tête. Vraiment, je suis intrigué de voir ce développement-là. Mais t'es d'accord avec moi sur le fait que là, pour d'ici la fin de la saison, connaissant le gars, lui, il va s'arranger pour faire tout en son possible pour pouvoir revenir au jeu avant la fin du calendrier. Mais en même temps, est-ce que ce serait pas plus prudent que le Canadien dise, ben écoute, là, Shea, tu reviens, il va rester 4-5 matchs. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle, tu sais?
Oui, mais c'est très similaire à la situation avec Carey Price il y a quoi, 3 ans maintenant, là, c'est où Price était blessé, il faisait tout dans ses moyens pour revenir, la saison était déjà perdue. Et moi, c'est moi, ma théorie là-dessus, c'est que ce sont des athlètes professionnels, c'est ça qu'ils font dans leur vie, ils jouent. Puis leur seule raison d'être, c'est de jouer, puis s'il veut revenir pour jouer 5-6 matchs à la fin, et encore une fois, s'il est en santé, si tout le monde dit qu'il est en santé, si lui-même il sent en santé, Je vois aucune raison pourquoi il jouerait pas. Parce que même si le Canadien est sorti de la portrait de série, ça pourrait juste rassurer Shea Weber. Et j'avais le même argument avec Carey Price il y a 3 ans. Ça pourrait juste lui rassurer de terminer la saison en santé, d'aborder sa saison morte avec ces matchs-là, juste pour enlever le doute concernant son pied. C'est juste pour ça, ça vaudrait la peine qu'il termine la saison. S'il est en santé, on s'entend. Il devrait pas raccourcir sa convalescence. Il devrait pas revenir trop rapidement pour jouer des matchs qui ont aucune conséquence. Puis on prend pour acquis que le Canadien serait très loin de la portée des séries rendue fin mars là. Mais ça fait du bien à un athlète qui est blessé il y a un sentiment d'accomplissement que t'es revenu, t'as complété ta convalescence, ta réhabilitation dans le temps prévu et que tu rentres dans la saison morte en santé. Ça, il y a une valeur là pour un athlète. Et j'ai parlé à plusieurs joueurs qui ont pensé ça et que ça aide avec leur préparation estivale et juste avec avoir la paix dans ta tête que t'es revenu, il y avait pas de complications avec la blessure, le pied sentait bien. Là, je peux entamer mon été en paix tranquillement puis recommencer ma préparation dans 1 ou 2 mois.
Ouais, là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec toi. Écoute, je voulais te relancer sur quelque chose par rapport à la blessure de Weber. Là, c'est un petit peu, on va faire de la fiction là, mais éventuellement, si chez Weber se rend pas jusqu'à la fin de son contrat, il y a un truc, une disposition dans la convention collective qui s'appelle en anglais le cap recapture penalty. Donc, dans le fond, c'est ça pénalise des équipes qui ont voulu utiliser des contrats de très très longue durée, des contrats qui ne sont plus valides aujourd'hui selon la nouvelle convention collective, mais qui pénalise une équipe d'avoir profité des premières années du contrat d'un joueur et si les dernières années le joueur prend sa retraite, il y a une pénalité qui est imposé à l'équipe qui a fait signer le contrat à ce joueur-là. Et dans le cas de Shea Weber, qui est une propriété du Canadien de Montréal, le Canadien aimerait pas ça, le voir quitter prématurément et prendre sa retraite trop tôt, mais je pense que les prédateurs de Nashville seraient encore plus inquiets de voir Shea Weber ne pas se rendre à la fin de son contrat parce que les pénalités pourraient s'augmenter d'année en année. Je sais pas si tu as eu l'occasion de consulter ces chiffres-là par le passé, mais comment tu vois... Absolument, c'est incroyable. Et le Canadien, lui aussi, aurait pu avoir un type de pénalité comme celui-là, mais de toute façon, c'est cette année que ça prend fin, les pénalités qui toucheraient le Canadien, tandis que dans le cas des prédateurs de Nashville, ils peuvent être affectés jusqu'à ce que Weber ait 40 ans. Mais dans tout ça, est-ce que ça change un petit peu la donne? Est-ce que ça annonce pas le fait que, quoi qu'il arrive, Weber... dans le fond, pourrait finir sa carrière dans l'uniforme des prédateurs de Nashville, ne serait-ce que pour s'assurer que il ne soit pas que les prédateurs ne soient pas affligés de cette pénalité-là. Parce qu'on a vu ce qui est arrivé avec Roberto Luongo, qui a pris sa retraite dans l'uniforme des Panthers de la Floride. Il a décidé de pas revenir au jeu cette saison. Et puis les Canucks de Vancouver, qui avaient fait signer le contrat à Luongo, je crois qu'ils ont 3 millions de dollars environ sur la masse salariale pendant 3 ans, quelque chose comme ça, mais ils ont des pénalités liées au contrat de Luongo qui n'est pas terminé. Alors, dans le cas de Weber, si jamais ça devait arriver, qu'est-ce que tu penses qui se passerait?
Ben, premièrement, Weber prendrait pas sa retraite. Si la blessure lui force de plus jouer, c'est ça la différence entre lui et Luongo. Luongo était pas blessé, il voulait juste plus jouer. Alors, dans ce cas-là, tu peux pas le mettre sur la liste des blessés à long terme, là, ce qui effectivement enlèverait son argent sur la masse salariale des Panthers de la Floride. Mais vu que Roberto Luongo n'était pas blessé, il pouvait pas utiliser ce système-là. Alors, vu qu'il voulait plus jouer, il a pris sa retraite. Dans le cas de Shea Weber, si jamais une blessure lui force de plus jouer, le Canadien ou n'importe quelle équipe pourrait le mettre sur cette liste-là et il continuerait à être payé, premièrement, Et deuxièmement, il y aura pas cette pénalité-là de, auquel tu parles. Alors, tu sais, il y avait plusieurs candidats récemment qui auraient pu coûter cher. Tu sais, Marian Hossa, c'est celui qui saute aux yeux, là. C'est vraiment le cas où une blessure, une problème avec un problème de peau qu'il avait, où ça, il y avait beaucoup, et c'était très douloureux de mettre son équipement de hockey, l'a forcé à prendre sa retraite, mais s'il l'aurait, c'est juste le timing de cette condition-là était timé avec, au moment du contrat de Marian Hossa où son salaire baissait, très dramatiquement. Et c'est pour ça qu'il y avait des suspicions, du monde croyait que c'était un deal déjà prévu, que cette année-là, Marian Hossa allait prendre sa retraite parce qu'effectivement, il était payé comme 1 million ou 1,5 million par année pour 3 ans. C'était juste des années qui ont été ajoutées pour réduire, l'impact de sa salaire sur la masse salariale de Blackhawks. Donc, Cole Weber, puis même chose avec Marian Hossa, il continue à être payé. Tout au long de son contrat, même s'il joue pas. Si jamais ça arrivait avec Weber, ça me surprendrait qu'il prendrait sa retraite, et même si ça paraît peu d'argent en fin de contrat, c'est quand même des millions de dollars qu'il laisserait pour rien, parce que c'est pas son choix qu'il joue pas. Tu sais, ces 3 dernières années, il a payé 1 million de dollars en salaire. En 2022-23, il a payé 3 millions. Alors même à ça, s'il n'est pas capable de jouer rendu en 2023-24, disons, où il reste 3 ans à 1 million par année, ce qui était plus ou moins la même circonstance que Marian Hossa, au lieu de prendre sa retraite, il va juste aller sur la liste des blessés, puis il va prendre ces 3 millions-là. Là. Personne ne dirait non à 3 millions de dollars, là, même si tu as gagné, comme dans le cas de Weber, je pense au cours de sa carrière, il a gagné quelque chose comme... 140 quelques millions de dollars, là. C'est comme s'il va être rendu à ça. Mais, pour les trois derniers, tu sais, je vois aucune raison pourquoi, premièrement, s'il est forcé à prendre sa retraite à cause d'une blessure, pourquoi il prendrait sa retraite et non juste,
tu sais, rester sur la liste des blessés à long terme.
Être blessé sur long terme puis prendre cet argent-là. Alors, je pense pas que les Predators ont quelque chose à craindre. Mais étant dit ça, j'ai déjà parlé à quelqu'un qui évoquait la possibilité que si jamais il était dans une situation, le Canadien était dans une situation où il voulait plus de Weber. Weber était plus capable de jouer. Il voulait insérer du jeunesse dans leur alignement. Puis il voulait plus faire jouer Weber. Puis il voulait le mettre, disons qu'il serait laissé de côté. Disons dans 3-4 ans. Puis Weber, il aime pas ça. Puis étant donné que les 3 dernières années, il gagne juste 3 millions de dollars. 1 million par année. Il dit, bon, ben, moi, je veux pas m'asseoir dans les estrades pendant les 3 dernières années. Je pense que je vais prendre ma retraite. À ce moment-là, le Canadien pourrait aller voir les Predators de Nashville, puis dire, hey, écoute, Shane Weber, ça ne tente plus, là. Vous autres, est-ce que vous avez de la place pour lui? Parce que, sinon, il prend sa retraite. Puis là, les Predators seront forcés à payer quand même assez cher pour s'assurer que Shane Weber ne prend pas sa retraite. Alors, oui. Dans les deux cas, les chances que les Predators vont être pognés avec cette pénalité-là sont très minimes parce que, premièrement, Shea Weber voudrait probablement pas faire ça aux Predators, juste pour le faire. Et deuxièmement, les chances qu'il prend sa retraite sans aucune blessure étant liée à ça sont très minimes. Et une fois qu'il y a une blessure liée à ta retraite, tu vas sur la liste des blessés à long terme, puis that's it.
Puis ça, d'ailleurs, la liste des blessés à long terme va lui... fait en sorte qu'il y aura toujours un marché pour des joueurs comme lui qui ont des gros salaires qui comptent sur la masse salariale. Mais étant donné que c'était un contrat à salaire décroissant puis qui était payé de moins en moins, ben les équipes qui sont un peu plus gratteuses, qui cherchent à rester juste proche du plancher salarial, ben elles vont être intéressées
notre capitale nationale, là, ça va toujours être un marché pour
ça. Ben exactement, tu sais, c'est ça, fait que tu vas le chercher puis tu le payes 3 millions mais t'en déclares 7,5 sur le plafond salarial.
C'est ça.
C'est une équipe qui peut être intéressante pour peut-être certainement 2 ou 3 formations.
Ben c'est ça, puis on parlait de Hossa, puis en ce moment Hossa techniquement il joue pour les Coyotes d'Arizona.
C'est
c'est à cause de ça là. Il est sur LTI, il est sur la liste des blessés à long terme pour les Coyotes d'Arizona jusqu'à la fin de l'année prochaine. Jusqu'en 2021. Marian Hossa est techniquement dans la Ligue nationale, mais il joue pas. Alors, il y a toujours des équipes comme ça qui existent, qui aimeraient avoir... Mais en fait, c'est même pas dans le cas des Coyotes. Et puis, cette idée-là qu'il y a des équipes qui cherchent à atteindre le plancher, là, je pense que dans le cas des Sénateurs, cette année, c'est légitime, mais dans les années à venir, ça ne serait pas. Et même dans le cas des Coyotes, les Coyotes, en ce moment, ils ont... C'est quoi leur masse salariale en ce moment? C'est 85 millions de dollars. Là. C'est un des
oui, plus hauts de la Ligue. Ils dépensent au plafond.
Ouais. Ouais, c'est ça. Alors, mais l'affaire, c'est que si tu as de l'espace, c'est sûr que les Coyotes ont reçu quelque chose pour ça. Là. Ils ont juste pas pris ça parce qu'ils étaient gentils. Là. Et puis, ils avaient fait la même chose avec Pavel Datsyuk. Ils ont fait la même chose avec Chris Pronger. Ils ont fait la même chose avec... on sait qui a marqué le but pour les Blackhawks à la fin...
Dave Boland.
Alors, ouais. Tu sais, il y avait plusieurs cas où les Coyotes avaient de l'espace, puis ils en ont profité. Mais en tout cas, tout ça pour dire que...
Ben écoute, dans l'échange de Marian Hossa, ils sont allés chercher... Les Coyotes étaient allés chercher Vinny Nostroza, qui est un joueur de centre de quatrième trio, mais un joueur de la Ligue nationale quand même assez utile. Puis Jordan Easterly, qui est un défenseur qui au moment de la transaction est encore très jeune. C'est un joueur que les Coyotes estiment quand même pas mal. Et puis il y a eu un choix de troisième ronde qui est devenu Nathan Légaré. Puis honnêtement, à part Marcus Kruger qui est parti dans l'autre sens là, les autres joueurs c'est pas vraiment, c'est rien pour écrire à sa mère. Donc la façon dont les Coyotes ont pu libérer les Blackhawks de l'embarras salarial de Hossa, ben en même temps ils sont allés chercher certains atouts, alors intéressant.
Oui, c'est intéressant, mais c'est alors en théorie le Canadien serait, c'est si jamais la même chose se produit sur Weber, ce que je pense pas qu'il va arriver. Le Canadien serait pogné à payer ce prix-là, sauf que il y a cet autre élément où les Predators ont un intérêt très très élevé pour s'assurer que Shea Weber prend pas sa retraite avant la fin de son contrat. Alors le Canadien vont toujours avoir ça en main. Ça c'est sûr qu'il pourrait toujours appeler au Predator et dire écoute, on a plus de place pour Weber dans notre top 6, ça lui tente pas d'être laissé de côté. Il chiale, il pense à prendre sa retraite. Je suis certain que les Prédateurs vont juste commencer à lancer des choix au repêchage, là, juste un par un. Deuxième, première ronde. Ça va juste commencer comme juste une barrage de choix de repêchage qu'ils vont commencer à lancer. Et qui sait, alors, c'est, tu sais, parce que je pense que si Weber prend sa retraite avec un an qui reste sur son contrat, la pénalité pour les Prédateurs est quelque chose quelque chose comme 23 millions de dollars. Ce qui est hallucinant, certain que ça arriverait jamais, là. C'est quelque chose dans ces eaux-là. Puis, c'est sûr que la Ligue nationale permet...
Non, excuse-moi, je l'ai sous les yeux. 24,5.
C'est ça. 24,5 millions. Alors, ça arriverait pas. La Ligue nationale serait obligée de faire quelque chose. Mais c'est ça, la réalité, c'est que avec ça, les Canadiens ont toujours une façon de se libérer de ce contrat-là, si jamais ça fonctionne pas. Mais moi, je peux pas croire. Premièrement, si Shea Weber est en santé, je suis convaincu qu'il va jouer jusqu'à la fin de ce contrat-là. Et s'il l'est pas, il irait juste sur la liste des blessés à long terme. Les Canadiens vont le garder. Et ils l'échangeront même pas, comme les Blackhawks ont fait avec Rossi. Ils vont juste le garder sur la liste à long terme, puis ils vont gérer ça. Je suis certain que ça arrive. C'est comme ça que ça va arriver.
OK. Revenons sur le plancher des vaches. Revenons à cette année-là, maintenant, contre les Penguins de Pittsburgh et vraisemblablement pour presque le reste de la saison. Pas de Shea Weber dans l'alignement. Le Canadien a déjà Scandella en uniforme, a déjà Brett Kulak en uniforme, a Xavier Ouellet dans la formation également. C'est pas une grosse ligne bleue. Est-ce que de quelle manière tu vois tu vois ça se dessiner dans les prochaines semaines? Parce que là il y a le défenseur d'extra, c'est Christian Follin qui voit des défenseurs gauchers jouer à droite à sa place. Alors il doit être content juste de gagner un salaire de la Ligue nationale, mais pour ce qui est de l'estime qu'on porte à sa contribution sur la glace, pour là-dessus, on repassera, là. Mais pour l'instant, la brigade défensive du Canadien, c'est pas les gros chars, comme on dit. Est-ce que avec la date limite des transactions qui s'en vient, vois-tu des changements? Est-ce que, par exemple, le Canadien peut se permettre d'échanger Marco Scandella dans la situation actuelle? Sachant qu'ils ont déjà perdu Weber, tu sais.
Ouais, mais, tu sais, je pense que ça, La façon de répondre à ces questions-là, ça revient à un débat que nous, on a eu entre nous il y a quelques semaines. Ce qui donne, c'est quoi la meilleure chose? Est-ce que la meilleure chose, c'est que les jeunes jouent à Laval, puis restent à Laval, puis ils participent à une chasse pour les séries, puis ils font partie d'une équipe là-bas, puis qu'ils se sentent bien, puis qu'ils sont confiants? Ou est-ce que c'est meilleur de les montrer c'est quoi la Ligue nationale? C'est quoi le dernier droit de la Ligue nationale quand tu joues contre des équipes qui se battent pour les séries? C'est quoi cette expérience-là? Parce que hier soir, j'étais en train de regarder le match. Je voyais Victor Mete jouer à droite. Je voyais Xavier Ouellet jouer à droite. Puis je suis comme, est-ce que c'est vraiment une meilleure option, ces deux-là, que Cale Fleury en ce moment? Vraiment? Je comprends que Cale Fleury joue pas super bien à Laval. Mais quand même, il y a quand même un échantillon d'une cinquantaine de matchs dans la Ligue nationale où il a montré qu'il est quand même meilleur que ces deux options-là. On s'entend là-dessus. Alors, ben, c'est bien une question philosophique.
Ouais, dans le cas d'Ouellet, oui. Mais...
Même dans le cas de Mete, comment? Et honnêtement, à mon avis, je le vois jouer à droite, mais je l'ai même parlé mardi, là, c'est pas le même joueur à droite. Là. Il est juste pas capable. Il y a une certaine... Tu sais, un joueur comme Victor Mete a besoin de tout le temps qu'il peut prendre pour exploiter sa vitesse. Et ce qu'il jouait à la droite fait, c'est que ça l'enlève une demi-seconde de temps. Et ce demi-seconde-là, pour un gars comme lui, oui, enlève tout son avantage. Alors, lui a besoin de jouer à gauche. Et il est plus confortable à gauche. Écoute, il va faire ce que le Canadien lui demande de faire. Il joue dans la Ligue nationale. Il pourrait pas être plus heureux. Sauf que, c'est clair que c'est un gars qui a besoin de jouer à gauche plutôt qu'à droite. Alors, la question devient, puis je pense que la question s'applique à plusieurs autres positions. Une fois que ça devient clair aux Canadiens, si ça ne l'est pas encore, mais une fois que ça devient clair aux Canadiens que, disons, il se rend à dimanche, puis il part contre Pittsburgh, puis il part contre Dallas. Disons. Oui. Ce qui probablement va arriver. Il se rend à dimanche, puis il se rend à lundi, puis il dit, OK, écoute, la série, c'est fini, là. Dépendamment de ce que les Leafs et les Panthers et toutes sortes d'autres équipes font d'ici là, peut-être qu'il peut déterminer que la série s'est terminée. Puis effectivement, ils peuvent. À ce moment-là, est-ce que c'est mieux de ramener Kotkaniemi, ramener Poehling, ramener Fleury, ramener tous les joueurs qui pensent vont jouer avec le Canadien dans les années à venir et dire, écoute, revenez, vous allez jouer et vous allez voir c'est quoi. Et ça va être difficile, puis ça se peut que vous n'allez pas aimer ça, mais pour votre développement, on trouve que c'est important qu'on vous montre qu'est-ce que ça prend pour jouer dans cette ligue-là, et tu vas l'apprendre là.
Ouais, c'est sûr que c'est un argument qui se défend, mais moi j'aime bien, tu sais, on était peut-être dans la minorité, toi et moi, à pas voir du meilleur œil le fait que Kotkaniemi ait été cédé à Laval, mais maintenant qu'il y est, pourquoi pas y rester? Je regarde le classement dans la Ligue américaine à l'heure actuelle. Le Rocket de Laval est nez à nez avec les Marlies de Toronto puis le Crunch de Syracuse pour accéder au dernier, à la dernière place donnant accès aux séries dans la division nord de la Ligue américaine. Ils sont au cœur d'une bataille à finir qui va durer jusqu'à la fin. Et ça, en soi, c'est aussi une expérience qui est importante. Puis si je me mets à la place de Kotkaniemi, c'est sûr que il y a rien pour apprendre la Ligue nationale que de jouer dans la Ligue nationale, mais d'être le fer de lance d'une équipe, d'être le leader d'une équipe qui dans une poussée de séries éliminatoires, c'est pas la Ligue nationale, mais c'est juste en dessous. Puis c'est quand même assez intéressant. Je pense qu'une fois que le mouvement des jeunes, ces gars-là sont rendus à Laval, ben pourquoi ils ne se souderaient pas tous ensemble et essaieraient de faire de cette équipe-là une équipe gagnante? Parce
qu'ils peuvent
à Montréal,
faire ça,
c'est sûr que tu vas apprendre.
Ils peuvent faire les deux.
Qu'est-ce que tu veux dire, ils peuvent faire les deux?
Tu peux jouer à Montréal, puis tu peux retourner à Laval, puis faire le dernier poussé pour les séries à Laval, puis that's it. Là, c'est il y a une façon de faire les deux, mais tu sais, je pense qu'il y a une certaine valeur à montrer ça, prendre une opportunité qui se présente, tu sais, parce que si tes matchs ont zéro conséquence, tous les matchs après la date limite, disons. Alors, ils restent à Laval jusqu'à la date limite. Alors, ils sont tous éligibles pour les séries rendus là. Puis début mars, tu le rappelles, mm-hmm. puis tu les gardes à Montréal pour genre 2 semaines. Tu dis, écoute, ça c'est... Regarde la façon qu'il faut jouer, regarde le sacrifice qu'il faut faire, regarde l'effort qu'il faut fournir. Check ça, parce que c'est ça nos attentes envers vous autres. On s'attend que vous autres vous fassent ça. Alors, vis-le, avoir du vécu, joue contre ces équipes-là, puis 2 semaines plus tard, dis, OK, tout le monde, tu retournes à Laval, on va essayer de faire des séries à Laval, bonne chance, bye-bye. C'est juste ça mon argument.
Ouais. Ben écoute, honnêtement, chaque match dans la Ligue nationale est un apprentissage qui peut être intéressant, sauf qu'est-ce que tu apprends nécessairement plus dans la Ligue nationale le jour où ton équipe est sortie de la course, qu'elle a hissé le drapeau blanc, puis tu dis, allez voir ce que ça prend pour être une équipe qui va jouer les troubles à fête pour celles qui se battent encore. Moi, honnêtement, au lieu de jouer au yo-yo avec ces jeunes-là, je les laisserais là où ils sont. Parce que c'est un noyau. Paling, Kotkaniemi, tu parlais de Fleury. J'inclurais pas Suzuki là-dedans, parce que je pense pas qu'il va aller dans la Ligue américaine. C'est quand même un des 3 meilleurs attaquants du Canadien en ce moment.
Ouais.
Mais disons, pour les autres, on peut rajouter Jake Evans là-dedans également. Ben, si vous êtes des gars qui, plus tard, allez vous retrouver dans l'uniforme du Canadien, allez vous bâtir une expérience commune. Qu'après ça, quand vous allez être tous ensemble, tout le groupe à Montréal, il y a quelque chose qui va vous unir puis qui va faire en sorte que ça va vous rendre plus fort. T'sais. C'est arrivé très souvent dans les bonnes équipes. Je voyais le nom de Syracuse il y a quelques minutes. Ben à Tampa Bay, il y a toute une génération d'anciens de Syracuse, puis tout juste avant ça de Norfolk, mais des anciens de la filiale de la Ligue américaine qui ont gradué en même temps à Tampa, puis qui sont devenus comme une nouvelle génération à Tampa. Ben le Canadien pourrait peut-être essayer de faire ça, puis je pense que le contexte cette année pour que ça se produise est bien placé.
Ben oui et non, parce que à Tampa, il y avait le luxe de faire ça parce qu'il y avait quand même Steven Stamkos, il y avait des joueurs dans l'équipe actuelle qui faisait en sorte que t'avais pas besoin, tu sais, tu penses à tous les joueurs, tu sais, auxquels tu fais référence. André Palat, c'est un choix de 7e ronde. Tyler Johnson, il a pas été repêché. Tu sais, il y a toutes sortes de joueurs, tu sais, là, ils ont Alex Barry-Boulette à Syracuse, mais il y a toutes sortes de joueurs qui font partie de ce groupe-là, qui ont gradué ensemble. Mm-hmm. La seule exception, c'est peut-être Alex Killorn, qui faisait partie de ce groupe-là, puis quand même était assez haut comme choix de repêchage, mais, pour la plupart, c'est des gars avec aucune attente, là. C'est pas un troisième choix au total dans le draft, là. C'est pas un choix de première ronde dans le draft comme Ryan Poehling. C'est plus un gars comme Jake Evans, duquel on parle, là. Alors, pour ces gars-là, je pense qu'il y a une gestion un peu différente qui peut se faire quand c'est clair que t'as déjà dépensé, un atout qui valait très cher sur Kotkaniemi et même très cher sur Poehling aussi. Même si c'est le 21e choix, ou je me rappelle pas, là, c'est dans les vingtaines, c'est quand même un choix de première ronde. Ouais. Pour leur rendre clair. Et dans le cas, tu sais, pour revenir à Weber, tu sais, si Fleury va avoir des minutes à Montréal, là, ramène-le. Joue-le sur la deuxième paire. Joue-le derrière Petrie comme deuxième défenseur, droitier. Et laisse voir ce qu'il a appris à Laval, tu sais, ça y a passé une couple de semaines là. Ils ont besoin de lui. C'est une excuse légitime de le ramener puis dire, écoute, on a besoin d'un défenseur droitier, on n'a plus Shea Weber, bien joué. Je pense pas que ça serait fou, mais je vois l'autre point, je vois l'autre côté de l'argument de le laisser là aussi. Je questionne juste, c'est quoi le meilleur, parce que je le sais pas. Je sais honnêtement pas, parce qu'il y a une certaine valeur que les gars apprennent comment jouer dans la Ligue nationale, parce que tout le monde le dit d'une façon très constante. La Ligue américaine, c'est une très bonne ligue. C'est pas la Ligue nationale. Et comment est-ce que tu vas apprendre comment, tu sais, c'était toujours la question avec Jared Tinordi. Jared Tinordi, c'était toute une question de sa cadence de jeu. Alors, il est pas capable de suivre le jeu, alors on va l'envoyer à la Ligue américaine où il y a une cadence très bas comparée à la Ligue nationale. C'est très haut comparé aux autres ligues. Mais c'est pas la cadence, c'est la chose, le pace, tu sais, c'est ça là, que tous les joueurs disent quand ils reviennent à la Ligue nationale, quand ils arrivent à la Ligue nationale. Ils disent, waouh, le jeu est tellement rapide. Il faut s'habituer à ça. Il faut apprendre comment être efficace dans cet environnement-là, puis je sais pas quoi, c'est quoi l'autre moyen, c'est quoi le meilleur moyen de devenir habitué à un certain style de jeu que de jouer dans ce style de jeu-là. C'est ça ma question. Je sais pas.
Oui, oui, absolument. Non, mais c'est le fun parce que je pense qu'il y a pas de mauvaise réponse, il y a pas de bonne réponse, puis ça va être, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont décider parce que j'y vois du mérite dans les deux. T'sais. Alors, ouais. Mais quoi qu'il en soit, il va falloir qu'il remplace Shea Weber. Il va falloir qu'il prenne l'équipe prenne des décisions également à la date limite des transactions. Puis forcément, s'il y a des places qui se libèrent, comment on va les et comment ces places-là vont être comblé après ça, ben ça va être bien le fun pour la fin de la saison. Au moins, ça va nous mettre quelque chose sur la dent parce que j'ai comme l'impression qu'en matière de fiches, victoires, défaites, c'est pas là qu'on va y trouver notre compte là.
Puis honnêtement, juste pour terminer, j'espère juste pour même pas pour le 15e, mais juste pour Shea Weber que ça devient pas quelque chose de récurrent dans sa vie là, parce que tu sais, il jouait tellement bien cette saison. Tu sais, il a connu quand même, disons en 2020. Ça, il a pas fourni le même niveau de production, le même niveau de jeu qu'il a démontré pendant les trois premiers mois de la saison. Mais quand même, c'est un joueur de premier plan. Puis c'était le fun de le revoir renaître sa carrière un peu cette saison et de faire taire un peu les critiques à son endroit. Alors, j'espère pour lui que ça devient pas quelque chose qu'on se remet à discuter à chaque année dans son cas.
Non, c'est ça. C'est pour ça que dans le communiqué du Canadien, ce que j'ai retenu le plus, c'est pas le fait qu'elle est absente de 4 à 6 semaines, c'est qu'il parlait d'une guérison complète. Alors, dans ma tête, une guérison complète, c'est qu'après ça, une fois que cette blessure-là est terminée, on peut la mettre derrière nous, puis ne pas trop, ouais, se préoccuper de la suite. Souhaitons que c'est ça qui se passe.
Ouais.
Ben écoutez, tout le monde, merci beaucoup d'avoir participé à notre podcast du sport athlétique. Lundi, nous serons de retour avec notre épisode pour les abonnés d'athlétique. Et si vous n'êtes pas abonné à notre magnifique site web qui couvre tous les sports professionnels en Amérique du Nord, de même que la Premiership anglaise au soccer, eh bien vous pouvez le faire en allant au athletic.com/supportathletic. Évidemment, pas d'accent aigu, support athlétique. Et athletic.com/supportathletic, ce lien-là, pour les auditeurs de notre podcast, vous donne accès à 40% de rabais sur la première année de votre abonnement. Donc, ça vaut vraiment la peine. N'hésitez pas à vous en prévaloir. Arpin, merci beaucoup.
Merci, Marc-Antoine, et mes à Pittsburgh, puis on se voit quand tu reviens.
OK, parfait. Merci beaucoup, tout le monde. Bye-bye.